Père Thierry Hénaud Morel, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs de votre radio.
Voilà Père, on est très heureux de vous avoir pour parler du sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon. Nous sommes en Normandie, dans l'Orne, je crois bien. Père, avant d'en parler, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Oui, donc je suis prêtre diocésain donc du diocèse de C. J'ai 69 ans, j'ai été dans différentes paroisses auparavant et j'étais à Alençon il y a déjà une dizaine d'années et j'ai été curé de cette paroisse au moment de la béatification des Saint-Louis et Zélie. J'ai eu ensuite un autre poste et notre évêque m'a demandé si je pouvais revenir pour être maintenant recteur du sanctuaire des Saint-Louis et Zélie qui avait été entre-temps érigé donc en 2015. Donc voilà, je suis recteur d'un sanctuaire qui est assez jeune de ce fait, puisqu'il remonte au temps de la canonisation de ce couple, Louis et Zélie Martin.
Oui, canonisation, père donc, je crois, le 18 octobre 2015 hein, par le pape François.
Exactement, exactement. Il y a ceci d'assez particulier que donc la canonisation était au cœur même du synode sur la famille et qu'en canonisant les saints Louis et Zélie, l'Église ont tenu à, pour la première fois, canoniser ensemble un couple, hein, le couple des parents de Sainte Thérèse, Louis et Zélie. Pour la première fois, ce ne sont pas les premiers couples de saints, heureusement, dans l'Église, mais c'est la première fois qu'ils sont canonisés ensemble en tant que couple, comme pour dire que le mariage, le sacrement de mariage, est un chemin de sainteté qui mérite justement d'être pris dans toute sa profondeur et sa dimension.
Alors justement, Père, si on revient un petit peu sur, même si c'est une histoire jeune, hein, histoire de ce sanctuaire, un petit peu qu'est-ce qui a amené finalement à cette création de ce sanctuaire, parce que c'est devenu aussi un lieu de pèlerinage, mais peut-être un lieu de pèlerinage bien avant que le sanctuaire soit érigé, non?
Alors oui, exactement, c'est-à-dire que passer déjà à Alençon des pèlerins, mais sur les pas de Thérèse, la fille donc de Saint-Louis et Zélie, Thérèse qui est née à Alençon, qui a vécu ses 4 premières années, 4 ans et demi, beaucoup de personnes venaient là, à la maison natale de Thérèse, aimaient à se retrouver dans le climat familial dans lequel elle est née. Donc il y avait un sanctuaire, non pas encore officiel en tant que titre de sanctuaire, mais il y avait quand même tout un courant de personnes qui venaient effectivement pour Thérèse. La nouveauté, évidemment, c'est que la canonisation des saints Louis et Zélie fait qu'aujourd'hui, la quantité de pèlerins est beaucoup plus importante. On a plus que doublé le nombre de personnes qui viennent fréquenter ces lieux. Et aujourd'hui, ça n'est plus seulement Thérèse, c'est toute sa famille, parce que on découvre qu'à travers cela, ce sont des relations entre des parents et des enfants, entre des parents et tout un univers qui est celui de la ville d'Alençon. Et le sanctuaire est fait de ces lieux que la famille Martin a habité ou fréquenté. Et dans chacun de ces lieux, finalement, on découvre des facettes de leur vie de couple, de leur vie de parents, de leur vie professionnelle, de leur vie sociale, de leur vie ecclésiale. Donc c'est un pèlerinage qui se conjugue aujourd'hui sous de multiples facettes et aspects.
Pèlerinage, et je crois que vous avez des pèlerins vraiment qui viennent du monde entier, hein.
Oui, annuellement, donc on constate environ 80 nationalités qui sont représentées par les pèlerins qui fréquentent effectivement Alençon et sa région autour, parce qu'il y a des sites aussi qui sont tout à fait intéressants pour un prolongement donc de pèlerinage. La campagne autour est aussi très parlante, là où on retrouve des aspects de la vie de la famille Martin.
Alors justement, Père Thierry Hénaud Morel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette famille Martin qui a eu en son sein cette grande sainte qui était Thérèse? Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette famille Martin?
Et il y aurait peut-être deux choses, donc c'est quand même à l'axe de la canonisation des parents Martin, à savoir que comme le disait déjà Saint François de Sales dans sa très belle introduction à la vie dévote, la sainteté, elle est faite pour tout le monde. Elle est faite pour tout le monde, au boutiquier qui dans son magasin, à l'artisan, au soldat, au prince. Il y a tout baptisé est appelé à un chemin de sainteté. Mais évidemment, il ne convient pas que le moine prenne les mêmes chemins que la mère de famille. Enfin, il y a aussi le génie propre à chacune des vocations. Au fond, illustrer la sainteté à travers un chemin qui est spécifiquement celui de laïc ou de religieux ou de clerc, c'est l'enjeu. Et ça rejoint bien ce témoignage du Concile Vatican II que tout le monde, avec des chemins qui leur est propre, est appelé à cette sainteté. Alors c'est vrai qu'on voit avec la famille Martin, bien sûr, déjà un exemple en la personne de Thérèse. On découvre de plus en plus que Thérèse a reçu quand même beaucoup de ses parents, quand bien même elle leur a aussi apporté beaucoup. Enfin, c'est une sainteté de réciprocité. Et c'est d'ailleurs le point important, c'est que souvent on honore un saint tout seul, hein, celui qui est représenté sur une statue, souvent un peu solitaire. Avec les parents Martin, on les représente en couple, on les représente dans une relation avec leurs enfants. On découvre cette sainteté relationnelle, cette sainteté qui se vit dans une relation avec effectivement d'autres personnes engagées dans cette aventure et de répondre à l'appel du Seigneur qui a envie de faire de nous des enfants de Dieu, des disciples, des saints.
Alors, Père Thierry Nous-Morel, bien sûr, avant donc l'érection de ce sanctuaire assez récent, il y a bien sûr au centre de cette vie historique autour de la famille Martin, il y a la basilique Notre-Dame d'Alençon.
Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette basilique qui est commémorative à la fois de l'enracinement de ce couple dans une vie chrétienne avec d'autres, dans une vie en église. C'est un couple qui avait fait ce choix de mettre le Seigneur à la première place, Dieu premier servi, en venant en particulier chaque matin à la messe matinale pour enraciner sa journée dans le Seigneur. C'est là aussi, bien sûr, où ils ont vécu leur mariage. C'est là où a été baptisée Thérèse. C'est là où ils venaient, dans la deuxième partie de leur vie, participer à la vie liturgique. C'est là aussi où Louis venait faire ses soirées d'adoration avec d'autres membres de ce groupe. C'est là aussi où Zélie a été inhumée. Ça veut dire que là se conjuguent les grands temps de la vie spirituelle de la famille Martin. Et c'est un des grands lieux à visiter quand on vient à Alençon, la basilique Notre-Dame.
Alors Père, la basilique, je crois que bien sûr il y a aussi la maison de la famille Martin.
Et voilà, cette maison effectivement, elle aussi est tout à fait parlante parce qu'on retrouve l'univers très 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 uni, très 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 affectif, très affectueux, qui peut être celui de cette famille. Mais vous voyez, dans cette maison, il y a à la fois le familial, l'intimité familiale, la relation avec les enfants, les soucis aussi qui ont pu être ceux que la famille a vécu avec Léonie, qui était le petit canard, si on peut dire, de la famille, qui était moins doué que les autres, qui a eu besoin d'assez longtemps pour trouver sa manière d'être et s'apaiser, hein, dans son cheminement. Donc on y évoque cette vie familiale, les difficultés éducatives, les choix aussi des parents, etc. Et puis, il y a ce versant aussi professionnel, puisque c'était aussi le lieu qui était le bureau de l'entreprise de dentelle de Madame Martin que Louis est venu rejoindre lorsqu'il a pu le faire pour la soutenir dans ce travail qui était vraiment un travail très important, lui-même étant le négociant, le commercial de l'entreprise. Donc on trouve à la fois la maison, le familial et le professionnel, vous voyez, hein, qui se découvre là à travers cette maison d'Alençon en face de la préfecture.
Alors c'est bien parce que les pèlerins peuvent suivre ce parcours, aller visiter, se recueillir même sur ces lieux de vie. Il y a également, je crois, aussi la chapelle Sainte-Thérèse.
Qui est attenante à la maison et qui effectivement en est comme le prolongement. Ça veut dire que là on rejoint déjà la mission de Thérèse, qui est la première, la petite dernière, mais qui devient la première dans cette mission universelle, hein, puisque c'est quand même cet enfant chéri du monde, hein, Thérèse de Lisieux et d'Alençon, est tellement connue à travers le monde que cette chapelle a été justement un des lieux très attractifs et aussi très commémoratifs de toutes les grâces qu'elle avait appelées une pluie de roses. Et c'est vrai que les murs de la chapelle sont tapissés de tous ces remerciements, ces ex-voto qui ont accompagné la construction même de cette chapelle. Donc c'est vrai, c'est un lieu aussi très, très parlant, en particulier pour ceux qui aiment beaucoup Thérèse et sa famille, puisque la chapelle donne sur la chambre familiale des parents. Donc cette unité entre la vie de famille, la vie conjugale, la vie parentale et la vie eucharistique est parlante. Je veux dire que ce côté qui révèle le côté beau et sacré de la vie familiale. Là, se conjugue entre chambre familiale et chapelle.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous avez dit quelques mots déjà, Père, hein, sur la famille Martin, mais en quoi on peut dire que cette famille, finalement, offre un exemple finalement assez moderne pour nous aujourd'hui, baptisés?
Oui, je trouve que vous avez une expression qui est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on est impressionné de voir le nombre de gens qui se disent finalement les Martins ne sont pas si loin malgré le changement de siècle, enfin c'était le 19e ou le 21e, mais ils sont des côtés très contemporains parce qu'au fond, ils ont vécu toutes les réalités d'une vie familiale, ou presque toutes, avec toutes les joies, avec les choix, les orientations à tout point de vue, enfin, de leur vie, puisqu'au départ, ils avaient pensé se consacrer à Dieu, mais après, ils ont bien découvert que c'était la vie conjugale qui était leur appel, avec aussi les épreuves qu'ils ont dû traverser, parce qu'ils ont perdu quand même 4 enfants, à une époque où une maman, comme c'était le cas pour Zélie, qui ne pouvait plus en finale nourrir ses enfants, était très vulnérable aux entérites, c'est-à-dire à des complications alimentaires des enfants qui font que ça les rendait fragiles. Quand il n'y avait pas le lait maternel qui était à l'origine dans les premiers mois, il y avait les premières difficultés d'affronter la vie. Alors les nourrices souvent pouvaient sauver la situation, mais à condition qu'elles soient à la hauteur, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, on découvre toute cette vie, cette trame, on vit cet équilibre entre la vie de famille et puis la vie professionnelle, qui était quand même très prenante. C'est un commerce d'exigence, un commerce d'excellence, hein, la dentelle d'Alençon. Et puis alors toute cette vie sociale, c'est-à-dire que surtout Louis, tout particulièrement dans le cadre des conférences de Saint-Vincent de Paul, dans le cadre de cercles catholiques, avait ce souci aussi d'une justice à promouvoir dans une ville comme Alençon avec des amis. C'était tout à fait intéressant de voir aussi combien ils étaient plongés dans ce qu'on a appelé le catholicisme social, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la vie de la famille, c'est bien sûr à l'intérieur cette vie avec le conjoint, avec les enfants, mais à l'extérieur aussi cette fraternité, cette vie de famille aussi, à vivre entre les classes sociales et pour plus d'équité, plus d'évangile. Et ça se conjugue très très bien, on le découvre profondément, et on le découvre à travers y compris des week-ends, des sessions, on aborde tel ou tel aspect, le travail, la vie éducative, la vie conjugale, peut-être aussi des formes comme l'épreuve de perdre un enfant, de connaître la maladie, enfin, vous voyez, toutes ces choses qui ont ponctué leur vie se conjuguent dans ce sanctuaire qui est au fond vraiment un sanctuaire de la famille, d'une famille qui se révèle dans tous ses états et où même, vous voyez, des familles séparées, on a accueilli cet été des mamans élevant leurs enfants seules, et on dit mais c'est étonnant, on se sent très accueilli par ce couple, elle ne sentait pas une différence, elle était à l'aise avec les parents Martin. Donc au fond c'est un sanctuaire qui accueille la famille dans tous ses états aujourd'hui.
Et oui. Et y compris, Père, peut-être les couples en désir d'enfant. Je crois que d'ailleurs vous proposez plusieurs événements, plusieurs pèlerinages autour de cette question. La question de la famille est centrale, on l'a bien compris, hein, grâce à ce sanctuaire.
Vous avez tout à fait raison. Alors évidemment, actuellement, on est très confronté évidemment aux fermetures d'un certain nombre de projets, mais heureusement, ça ne sera pas éternel et on reprendra donc le programme qui était effectivement bien établi pour cette année 2020-21 et qui de fait comporte aussi préparation de couples au mariage, célibataires vivant difficilement leur solitude, parents qui n'ont pas la grâce d'avoir encore pu accueillir des enfants. Vous voyez, ces choses-là aussi, on les confie. On les confie parce que c'est un sanctuaire aussi, vous voyez. C'est une réflexion, mais c'est aussi une prière, c'est une solidarité avec des saints dont on pense qu'ils ne sont pas indifférents. On le voit, on a chaque mois, vous voyez, environ 1000 à 1500 intentions de prière qui sont adressées au sanctuaire et on a aussi beaucoup de témoignages, de grâces reçues, cette activité des saints qui reste solidaire de nos vies et de nos, de ce que nous portons comme lui, comme eux les ont portés, ces aspects de la vie avant nous, quoi. Aujourd'hui, ils sont très, très proches, quoi. Ils se révèlent très, très attentifs à nos besoins, hein, et nous invitent à la confiance, parce que pour eux, ça n'a pas toujours été évident. Il y a des prières qui ont été longues avant d'être exaucées, mais quand on voit le bout du bout de leur vie, on se dit, bon, Thérèse le disait, Seigneur, ça ne s'est pas toujours passé comme j'avais imaginé, mais vous avez dépassé mes attentes, hein, au bout du compte. Hein. J'espère qu'on pourra tous dire cela, vous avez dépassé mes attentes.
Alors justement, Père, parmi tous ces pèlerins qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? Est-ce que vous avez par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de grâce, un ou deux exemples de témoignages de personnes passées par ce sanctuaire et qui ont été, peut-être pas exaucées, mais qui ont trouvé au moins la paix, une paix du cœur?
Bien sûr, c'est de cette nature, de l'ordre de paix du cœur, force intérieure, grâce de conversion. Combien de gens souffrent d'une vie qui n'est pas unifiée, qui n'est pas en cohérence avec leur aspiration la plus profonde, qui rendent témoignage de conversion, de rééquilibrage de leur existence. Et puis quelquefois, vraiment des grâces aussi très, 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 très spectaculaires par rapport à des guérisons, par rapport à des sorties. On a eu la venue, par exemple, d'Ukrainiens, vous voyez, qui venaient apporter une petite plaque, une sorte d'ex-voto pour une grâce justement tout à fait extraordinaire après des accidents, de gens donc qui ont réussi à sortir de situations les plus délicates et continuent à faire le voyage jusqu'à Alençon pour venir rendre grâce à la famille Martin d'avoir été exaucée et d'avoir retrouvé une certaine plénitude de vie. C'est vrai que c'est ce que beaucoup de sanctuaires découvrent, cet émerveillement de ce que le Seigneur fait dans la vie des gens, dans leur cœur ou dans leur corps ou dans leur vie sociale aussi. Hein. On a des réinsertions, des gens qui se libèrent d'addictions, enfin, vous voyez, tout ce qui peut faire, hélas, le poids de certaines vies qui, de temps en temps, connaissent une véritable libération et savent en rendre grâce.
Alors Père, justement, vous avez donc la capacité hein, d'accueillir ces pèlerins. Je crois qu'il y a de quoi loger, il y a de la restauration. Et vous avez peut-être aussi une équipe, hein, j'imagine, autour de vous qui vous aide.
Absolument. Il y a depuis maintenant un an et demi, presque deux ans, une maison d'accueil qui évidemment est un très bel instrument pour recevoir, pour accueillir, mais qui malheureusement actuellement est comme beaucoup d'autres maisons d'accueil en train d'attendre le jour d'une libération où on pourra réouvrir les portes de manière large, comme c'est demandé. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui permet maintenant de pouvoir rester plusieurs jours, soit avec des groupes, soit avec des familles. Et puis, il y a une belle équipe, effectivement, alors avec 6 salariés, et puis autant de temps assuré par des bénévoles. Une belle équipe à la fois de salariés et de bénévoles qui sont là pour accueillir, qui sont là pour guider, qui sont là pour écouter. Nous avons une petite équipe qui se forme et qui se lance dans l'écoute de beaucoup de personnes qui aspirent à avoir un peu de temps à passer pour partager, pour voir plus clair dans leur vie. Donc oui, une belle participation de bénévoles qui s'unissent à la mission de ce sanctuaire qui reste encore très jeune hein, puisqu'il n'a que 5 ans mais qui révèle un développement et qui rejoint une attente comme sanctuaire de la famille, une attente de plus en plus forte.
Alors Père, en plus de la messe, du sacrement de l'Eucharistie, vous avez aussi, je crois, il y a des offices qui sont proposés?
Absolument. On a la chance d'avoir une belle petite communauté de religieuses qui sont arrivées, en fait, il n'y a pas très longtemps, qui sont brésiliennes, les sœurs carmélites, messagères de l'Esprit-Saint, qui assurent une partie de cette vie de prière, et puis qui sont aussi reliées, c'est un des aspects que le Covid a fait creuser, reliées aussi par Internet, c'est-à-dire qu'on a eu à certains moments toute une prière qui effectivement n'était plus possible que par Internet, mais qui aussi permet que ce sanctuaire rejoigne de plus en plus des personnes d'autres pays. Alors le Brésil tout particulièrement, mais aussi l'Italie, le Liban, l'Espagne. Enfin, on sent qu'il y a une attente aussi de beaucoup de gens de se relier à la famille Martin, à Thérèse, à ses parents, à Léonie, hein, dont on parle de plus en plus, y compris quand on ne peut pas venir sur place, par les médias et par la radio, comme vous le permettez vous-même, vous voyez.
Alors Père, juste à l'instant, vous venez de parler justement de Léonie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors que Léonie, eh bien, est un témoignage de vie qui touche beaucoup, parce que soit que personnellement on découvre, on ressent beaucoup ses propres limites, et que ces limites-là sont difficiles à assumer, à vivre, et Léonie a dû passer par là, hein. Soit que pour l'environnement, c'est pas facile de savoir comment se situer avec quelqu'un dont on se dit bien que l'autorité, une autorité un peu autoritaire, ne porte pas de fruits, mais même la douceur aussi ne portait pas toujours du fruit. Donc vous voyez le désarroi d'un certain nombre de parents par rapport à des enfants en disant, ben nous, notre Léonie s'appelle Sébastien, ou s'appelle, enfin voilà, la difficulté qu'on peut avoir quelquefois, tant pour le jeune par rapport à son environnement éducatif, que pour les éducateurs par rapport à un jeune, il retrouve bien dans la personne de Léonie quelqu'un qui a connu cela, qui est passé par là, et qui après est devenue donc cette visitandine, cette sœur de la visitation, tellement apaisée, ayant apprivoiser ses propres limites et peut-être nous invitant chacun à cette humilité profonde, en quoi consiste une bonne partie de l'évangile du Christ, hein, qui nous redit combien c'est un chemin aussi de bonheur que celui de la douceur et de l'humilité. Que son procès de béatification donc, est en cours, le dossier très, très épais de cette étude a été envoyé à Rome. Et nous attendons l'aboutissement, si un miracle est reconnu et si à partir de là, la béatification est proclamée. Mais il semble bien que ce soit quand même très en bonne voie et que, en tous les cas, ce soit attendu par beaucoup de monde. Et elle est un complément, au fond, dans cette famille, complément de ces différentes facettes d'une sainteté vécue à plusieurs, vécue en famille. C'est cela quand même qui est le cœur du message de la famille Martin. C'est pas seulement le couple, c'est pas seulement chacun des parents, c'est pas seulement le couple, c'est aussi des enfants et la relation entre les enfants et les parents. Tout cela étant des chemins, au fond, quoi, d'amour, hein, un chemin d'amour tel que l'amour nous est proposé par le Christ. Et ils ont su à leur manière incarner, hein, cette proposition et cette victoire, ce bonheur d'aimer et pouvoir aimer en profondeur, quoi. C'est quand même ça qui caractérise cette famille, c'est que c'est un témoignage profond d'amour conjugal, d'amour avec les deux générations, avec tout un environnement. Entre sœurs, il y a une solidarité assez impressionnante. Puis autour, avec des milieux sociaux différents, créer cet esprit de famille. Quoi. C'est le mystère de la famille qui se joue là, quoi.
D'où l'importance aussi très grande, hein, de ce charisme, je dirais entre guillemets, ce charisme familial lié à ce sanctuaire dont on sait que la famille souffre aujourd'hui, beaucoup de séparations, des familles sont en grande difficulté, donc ce sanctuaire a toute sa place justement par rapport à cette situation.
Exactement, exactement. Et y compris avec cette miséricorde du Seigneur qui est quand même aussi le maître mot de l'expérience de Thérèse, mais aussi de ses parents, de voir comment même dans des moments de blessure, dans des moments où nos vies sont chahutées, comment on peut aussi découvrir cette présence du Seigneur qui ne nous laisse pas complètement tomber, et puis ce chemin de vie qui peut toujours se trouver, et puis cet appel à aimer de toute façon, y compris dans des moments, encore une fois, on vit des ruptures, comment l'appel quand même de l'Évangile reste toujours et encore plus d'actualité. C'est ça qui est passionnant dans un sanctuaire, c'est de voir comment la grâce vient croiser, pénétrer, sauver nos vies, nos vies humaines, avec leur grandeur et leur petitesse. Hein.
On en a parlé au tout début, Père, hein, de cette chapelle qui est très très belle, hein, très très belle chapelle où voilà, on peut venir. Je crois que des couples d'ailleurs ont demandé à être mariés dans cette chapelle. Des groupes peuvent venir aussi. Et je crois que vous avez la présence, hein, des reliques des saints époux Martin.
Exactement. C'est-à-dire qu'on peut venir dans la chapelle, en particulier vivre des renouvellements, des anniversaires de mariage, vous voyez. C'est beaucoup demandé, ça, pour des personnes qui viennent célébrer à Alençon, avec leur famille, un anniversaire de mariage et qui, soit à la chapelle de la famille Martin, soit à la basilique où ils se sont mariés, vivent une célébration de renouvellement d'alliance. C'est effectivement un des aspects très riches, jusqu'à y compris d'aller faire un petit pèlerinage sur le pont de la rencontre, qui permet pour chaque couple d'aller aussi retrouver la grâce de leurs origines, leur grâce de leurs fiançailles, etc. Enfin, il y a tout un cheminement à travers la ville qui permet effectivement de faire tout un itinéraire spirituel à l'occasion en particulier d'anniversaire de mariage.
Alors, je renverrai donc les auditeurs, ceux qui nous écoutent, au site internet qui est très bien fait. Hein, il suffit de taper dans un moteur de recherche Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon, en espérant que la situation actuelle se débloque. Effectivement, vous en avez parlé un petit peu, Père, parce que vous avez des beaux programmes à venir. Hein, j'ai regardé sur votre agenda, notamment au mois de février, pour les couples, hein, sur plein de sujets avec des cénacles organisés. Donc, alors, en espérant que ça puisse se faire, voilà, qu'on puisse retrouver
Voilà.
une situation normale.
On effectivement, on demande au Seigneur de nous éclairer, mais il y a toujours à faire confiance et puis de trouver aussi des moyens quelquefois de faire que ça se passe un petit peu différemment, mais que ça puisse avoir lieu. Et encore une fois, quelquefois Internet permet non pas des pis-aller, parce que rien ne remplace les anciennes, mais que quand même la prière, la communication, l'échange, l'enseignement puissent passer malgré tout de ces temps-ci.
Oui, faire preuve de créativité, comme l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, je crois, le pape François.
Absolument, absolument. Ah oui.
En tout cas, Père Thierry Hénault Morel, merci beaucoup pour ce temps de partage et pour nous avoir fait découvrir ce très très beau sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon.
En tout cas, merci à vous aussi de permettre que des personnes puissent effectivement profiter et se réjouir de passer un moment ici ou peut-être même d'accueillir. Et pas mal de paroisses demandent que les reliques de la famille Martin viennent et on organise alors des missions dans des paroisses ici ou là ou dans des communautés,
Très bien.
voire des écoles.
Eh bien, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci à vous et merci de votre radio.
Merci. On y est en
Au
prière. Au
revoir.
revoir, Père.
Au revoir. Merci beaucoup.